vie est belle. Le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces gris et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui?
Nous étions en train d'écouter Né sous la belle étoile de IAM et nous vous disons bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum et nous sommes en direct en ce mercredi 27 mars de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion jeudi 28 mars de 9h à 10h ainsi que en podcast sur Spotify en cherchant La Forêt des Possibles sur les différentes plateformes. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, probablement que, comme nous, vous vous posez plein de questions. La planète va mal et la société est sous tension. Et puis nous avons toutes nos questions du quotidien, notre famille, notre santé, notre logement, notre travail. Alors comment est-ce que l'on fait pour concilier tout cela? Comment trouver sa juste place dans une société incertaine? Prenez le temps de vous poser. La Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et actrices qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et de sa région. Elles et eux se sont posés plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés, ont créé leurs projets, qui répondent à des problématiques du quotidien et du territoire. Surtout, leurs projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse et donne du fruit pour montrer la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. En somme, une forêt possible. Chers auditeurs, chères auditrices, cette émission est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte à la fois nos besoins d'humains et les ressources de la planète. En tout cas, nos invités témoignent semaine après semaine que c'est possible. Je suis Marin Moffret, accompagné ce soir de Claire en régie et de Mathieu en studio. Bonsoir.
Bonsoir Marin.
Bonsoir tout le monde.
Et surtout, nous invitons ce soir Anissa Bécouche. Bonsoir Anissa.
Bonsoir.
Bonsoir Anissa.
Anissa, avec plusieurs casquettes que nous allons présenter successivement, à la fois dans un lycée professionnel, dans une association que tu crées des 6 générations et au collège citoyen. J'étais un peu rapide, mais nous aurons l'occasion tout au long de cette soirée de pouvoir en parler plus en détail. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, cette émission a un format que vous connaissez maintenant bien, qui est celui du moi au nous et du nous au tout, c'est-à-dire de se questionner sur comment est-ce qu'on passe de problématiques qui sont les nôtres pour créer des projets et comment est-ce que ces projets, à leur échelle, participent à transformer la société. Et sans plus attendre, Anissa, eh bien, je vais t'inviter à pouvoir un petit peu te présenter.
Merci Marin, bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Anissa Bécouche, j'ai 35 ans, j'habite à Marseille. Aujourd'hui je travaille dans un lycée professionnel, je suis responsable du bureau des entreprises. Mon travail c'est de faire la relation entre le lycée et les entreprises. Mon travail c'est surtout de m'assurer que des jeunes dans une orientation professionnelle sortent d'une position d'orientation subie et aillent plus vers une orientation choisie. Je suis aussi porteuse d'un projet qui s'appelle 6 Générations, une association que je crée depuis l'année dernière. 6 Générations, c'est une association qui s'adresse aux travailleurs et travailleuses précaires à Marseille et qui ambitionne d'offrir un accès à la culture et aux loisirs à ces travailleurs et travailleuses précaires à Marseille. Comme tu l'as dit, je suis aussi une formation depuis janvier et jusqu'à juin 2024 au Collège Citoyen de France, une formation en politique publique pour m'accompagner dans la mise en place de tous mes projets à 6 générations au lycée et peut-être sur la sphère politique.
Et ces projets, on aura l'occasion de pouvoir vraiment en parler plus, mais là, ce qui nous intéressait un peu en amont, c'est les prémices de ces engagements, et donc que tu nous parles un peu du cheminement que tu as eu de jeune femme à Port-de-Bouc, qui venait de quartiers populaires, et puis ensuite tout un cheminement qui t'a amené vers la découverte de la culture, les enjeux particuliers liés au fait de vouloir démocratiser leur accessibilité et leur accès, puis une découverte qui a été assez forte pour toi à un moment dans tes études avec la sociologie. Mmh. J'ouvre des portes pour que tu puisses nous mmh. présenter ce cheminement.
Merci. Donc oui, comme tu l'as dit, moi je suis issue de la banlieue de Marseille, une ville qui s'appelle Port-de-Bouc. J'ai grandi dans une famille pauvre, une famille d'ouvriers, dans un quartier populaire, une famille aussi issue de l'immigration. Moi, ma première porte vers l'émancipation, elle s'est créée grâce au sport comme un loisir. Donc ma mère avait tout misé sur le sport, elle avait très peur que ses filles grandissent dans un quartier populaire. Et donc, elle nous avait fait grandir, elle nous avait fait aller à la gymnastique rythmique pendant de nombreuses années. Ça a été ma première porte vers une ouverture d'un champ des possibles, des nouvelles formes de famille, des nouvelles formes de pratiques sociales que je ne connaissais pas. Donc, je n'avais pas du tout conscience de tout ça à l'époque, mais je me rendais bien compte qu'il se passait autre chose en dehors de mon huis clos, dans mon quartier populaire et dans mes pratiques sociales à la maison et au sein de ce quartier populaire. Ensuite, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir été mal orientée moi-même. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui d'être dans un lycée pro. Et donc d'avoir été décrocheuse scolaire, d'avoir été raccrochée au lycée professionnel qui m'avait proposé de prendre une option en plus, une option anglais que j'avais prise et qui m'avait permis de voyager à Londres. J'avais jamais voyagé, j'étais jamais sortie ni de France, ni vraiment de la région. Et donc, je me retrouve à Londres en 2008 et je me dis, elle est là, ton ouverture. C'est là que tu vas trouver la suite de ta vie. J'avais très peur. J'avais pas encore fait mes études de sociaux, mais je me souviens, adolescente, me dire, c'est plié. J'avais tout à fait conscience des enjeux de déterminisme social, mais ni j'avais les notions, ni j'avais les termes, mais j'avais bien compris qu'il fallait que je m'en échappe. Et donc Londres a été ma porte d'entrée ou de sortie, ça dépend où on se situe. Parfois je dis que c'était ma porte d'entrée, parfois je dis que c'était ma porte de sortie. Et donc j'arrive à Londres, et là, un peu comme à grande échelle, ce qui s'est passé au sport se repasse à Londres, où je me refais un nouveau réseau social, je rencontre des nouvelles personnes. On n'a pas les mêmes pratiques sociales, on ne fait pas les mêmes choses, on ne comprend pas la société de la même manière. Et je découvre. Je fais plein de choses, je découvre et on m'ouvre plein de portes. Et on m'ouvre notamment la porte de l'université. Je me souviens de conversation, un employeur à l'époque me dit...
T'es arrivé à quel âge à Londres ?
À 20 ans.
À 20 ans.
À 20 ans avec mon bac pro et j'avais zéro plan. J'allais vraiment être fille au père pendant un an et rentrer.
Ok, et donc à ce moment-là, pas de suite d'études en France ?
Non, personne dans ma famille n'a poursuivi ses études. Donc le bac, c'était vraiment le Graal. C'était très bien déjà, j'avais réussi. Donc voilà, j'allais explorer Londres. Et donc j'arrive à Londres et quelques mois après mon arrivée, je rencontre des personnes. Et cette femme me dit, mais je comprends pas pourquoi tu vas pas à la fac, qu'est-ce que tu fais à Londres, c'est quoi le plan? Et donc de manière très très spontanée et surtout un peu naïve, je lui dis, personne n'est jamais allé à la fac, c'est pas un projet. Elle me dit, mais si, tu vas y aller. Et donc ces gens-là m'ont aidé à aller à la fac, notamment parce qu'ils l'ont financé. Puisqu'à Londres, la fac a un coût. Et donc, j'ai fait des études de sociaux. Et là, c'était le début aussi d'autre chose. C'est-à-dire que mes bouquins de sociologie sont devenus mes bibles, où tout a pris sens. Ma condition, le déterminisme social, l'égalité des chances. On en parlera peut-être tout à l'heure. On en a parlé avant l'émission. Mais je me sentais moins coupable de ma condition. Et je comprenais qu'il y avait un caractère systémique et qu'il y avait des choses à faire, des choses à combattre. Et je pense que c'est là que je passe du moi au nous, où j'imagine ma vie professionnelle, bénévole et future, et syndicaliste, très engagée, pour pouvoir justement d'abord sensibiliser. Donc ça a été une de mes premières actions de citoyenne, sensibiliser autour de moi, notamment au travail, sur ces enjeux-là.
Sur place, toujours à Londres ?
Toujours à Londres. Donc ça, c'est... l'émancipation, donc par les études, par le sport, par le voyage, et puis mon travail de recherche grâce à la sociologie, évidemment, l'obsession est née, et j'ai beaucoup travaillé sur un sujet qui est les trajectoires des personnes issues de familles précaires. Donc je travaillais dans une crèche à l'époque, Et dans cette crèche, je me rendais bien compte que le profil des femmes, puisqu'on était entourées de femmes qui y travaillaient, était le même. Elles venaient des mêmes familles, elles avaient les mêmes habitus, les mêmes pratiques sociales. Et à force de conversation, je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je fais du travail sur place, sur comment elles sont arrivées à ce métier-là, qu'est-ce qu'elles envisagent pour la suite. Et puis ensuite, je deviens enseignante, je passe un master et je deviens enseignante. Je fais fonction de CPE et là, je travaille avec des jeunes déjà sur l'orientation. Pourquoi on choisit les options qu'on choisit, pour aller vers quoi, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on devient, est-ce qu'on s'empêche, est-ce qu'on nous empêche. Et donc je fais autant de sensibilisation que de travail d'orientation sur le terrain. Et donc ça, c'est ma vie à Londres de 2008 à 2021. En 2021, je rentre à Marseille et j'anticipe, donc j'ai retrouvé un courrier récemment, c'est assez drôle de le relire. En 2021, j'anticipe mon retour à la précarité puisque je comprends le caractère systémique du déterminisme social en France plus qu'à Londres, qui est une société pour laquelle je n'ai pas tellement envie de faire de la publicité, qui est une société très libérale, qui fait aussi beaucoup de mal, mais qui m'a permis beaucoup de choses. Donc je sais que je quitte ça pour revenir en France et pour revenir dans mon noyau. Et j'anticipe le retour à la précarité. J'écris une lettre au président de la République en lui disant « telle est ma situation, je ne veux pas retourner à la précarité. J'ai un bac plus 5, mais moi je veux travailler dans le service public, ça ne va pas être possible sans les concours. Où sont les passerelles, comment on pourrait faire ?» Bon, j'ai pas eu de réponse, mais j'ai tenté tant bien que mal de me réinsérer. Et donc, j'ai fait une mission chez Pôle emploi. Chez Pôle emploi, j'ai travaillé, j'étais...
Oui, désolée.
Pardon.
Désolée Anissa, je voulais pas te couper, mais je voulais aussi que tu reviennes, que tu précises un peu le terme « j'anticipe le retour à la précarité ».
Ouais.
Qu'est-ce que... Enfin voilà, comment tu te projettes dans ton retour en France qui te fait « je vais revenir en France et je vais revenir à cet état plus précaire ». Est-ce que tu peux voilà.
Ouais, développer.
Creuser, ouais.
J'anticipe le retour à la précarité, c'est-à-dire qu'à Londres, j'ai réussi à me construire un réseau et social et professionnel. J'arrive tout à fait à naviguer le système de cette société, de cette ville. Et je rentre à Marseille, qui est une ville où je n'ai jamais travaillé, où je n'ai jamais été adulte, où je ne connais personne en termes de réseau pro et de réseau social. J'ai ma famille, qui est un de mes réseaux personnels. Et moi, je travaille dans le service public à Londres, je travaille dans l'éducation. Et je sais que pour pouvoir travailler dans l'éducation en France, je vais devoir passer un concours ou bien devenir contractuel et retourner à une forme de précarité, puisque contrat court, contrat incertain. Donc, c'est ça que j'anticipe. C'est ne plus pouvoir être certaine de mon futur, notamment professionnel.
Et pour moi, là, c'est plutôt un retour à zéro. Enfin, voilà, c'est commencer une nouvelle aventure. Pourquoi, toi, tu l'associes forcément à de la précarité? Parce que tu sais que tu vas avoir une baisse de revenus, c'est ça?
Alors, une baisse de revenus, c'est certain. Une incertitude de l'emploi aussi. Donc, ne pas savoir de quoi demain va être fait. Moins d'opportunités. Et aussi le sentiment, et d'ailleurs le sentiment qui s'est vachement prouvé depuis, de ne pas rentrer dans les cases de l'emploi en France, d'avoir eu un parcours trop atypique, un diplôme d'une université étrangère qui pourrait être valorisé dans le privé, mais moi je travaille dans le public, donc comment s'insérer, comment cocher toutes les cases. Donc je savais que j'allais pas cocher toutes les cases. Et la précarité aussi, peut-être que c'est intéressant aussi de définir de faire la différence entre pauvreté et précarité. La précarité, c'est vraiment pas tellement c'est pas l'insuffisance financière, c'est plutôt le manque de filet de sécurité. C'est l'incertitude. C'est que si demain, je perds mon CDD, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer le mois d'après si je n'ai pas une allocation chômage. Si je tombe demain malade et que je suis sur des indemnités de la sécurité sociale, je ne vais pas pouvoir assurer mes factures. Donc, c'est vraiment ça, c'est cette idée de filet de sécurité, la précarité.
Mmh. Ouais, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis avec ce retour à la précarité. C'est vrai que quand on a un chemin professionnel qui bifurque et qui diverge, on peut se retrouver souvent dans ces situations qui sont précaires, effectivement.
Peut-être je peux ajouter aussi, c'est une question sur laquelle je ne réfléchis pas autant que la question de classe, parce que c'est celle-là qui m'obsède. Et pour moi, alors il y a plusieurs écoles de pensée, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais moi je fais vraiment partie de l'école de pensée qui pense que la classe est le début de toutes les discriminations et de toutes les l'inégalité des chances. Mais il y a quand même une question aussi de race, je me permets le terme, parce que mon identité politique, elle s'est créée au Royaume-Uni, donc c'est complètement OK en anglais de parler de race, de race. Je sais que c'est moins le cas en France, mais je me permets le terme. Mais je pense qu'il y a aussi ça derrière, dans cette idée de retour à la précarité où je sais que ça va être moins facile avec mon CV, avec mon nom, de trouver un emploi. Donc je crois qu'il y a ces deux problèmes qui se chevauchent et c'est ça l'anticipation.
Ce qui est intéressant là, c'est que depuis tout à l'heure, le thème de cet échange, c'est la question des trajectoires des personnes qui sont issues de milieux défavorisés. Moi, j'ai aussi envie d'entendre tout simplement la question des trajectoires parce que Claire a rebondi sur certains éléments que tu partages alors qu'elle a une trajectoire qui est autre. Et c'est pareil pour moi, je me ressens dans certains bouts, tu vois, pas du tout dans je sais pas si jamais vous visualisez des nuées d'oiseaux, si les personnes qui nous écoutent le voient, parfois il y a des moments où on a l'impression que ça va se connecter et puis ça repart, puis ça se reconnecte, puis ça repart. Pour ce qui me concerne et dans le moment où je me retrouve dans ce que tu dis, c'est... moi, je ne viens pas du tout d'un milieu défavorisé de base d'un point de vue matériel, mais probablement plus sur d'autres aspects. Et Londres a aussi été pour moi un moment très émancipateur, de pouvoir quitter la famille, quitter un certain carcan, quitter un conditionnement qui était lourd à porter, quand bien même il pouvait être complètement différent, dans une ville qui est effectivement plus optimiste que d'un bon nombre de villes qu'on va trouver en France, avec la capacité de pouvoir être soi-même, et notamment par des études qui aussi élèvent, et un retour en France qui a été brutal, avec une vraie prise de conscience d'une société très inégale qui m'a fait prendre un énorme choc avec un pas de côté et où je t'ai retrouvé un peu plus tard sur mon parcours à Nissa, puisque tu as été ma conseillère Pôle emploi ici à Marseille, et on s'est en plus retrouvé après à incuber des projets, pas les mêmes projets mais dans la même promo chez Intermed, mais là j'avance un petit peu sur ce que tu diras juste après, mais c'est intéressant de voir des trajectoires qui se coupent avec des endroits où quand bien même on peut venir d'endroits très différents, on se retrouve sur des moments précis avec des ambitions qui peuvent être les mêmes, et puis ça peut repartir, puis rebifurquer, puis se retrouver, etc. Voilà, j'aimerais que celles et ceux qui nous écoutent puissent aussi avoir ces intuitions de trajectoire. Vous voyez pas ma main, mais qui chaloupe en fait. Oui, vas-y.
Non, je pense que la trajectoire, elle est d'autant plus, elle chaloupe beaucoup quand on est en fait un transfuge social, quand on n'a pas les codes à la base. Enfin, je veux dire, quand on a des parents ouvriers, moi, ça résonne énormément aussi pour moi. Mes parents sont ouvriers. Je suis le seul de ma famille à avoir fait une école de commerce. Donc, on se retrouve un peu le cul coincé entre deux chaises. Il y a un moment où, enfin, j'imagine que tu l'as vécu. T'es aussi un peu désorienté. Et comme tu le dis, il y a aussi ce genre de rencontre. Tu parlais de la personne qui t'a parlé de la fac, comme ces personnes qui sont placées sur ton chemin et qui te permettent justement de t'ouvrir une trajectoire que tu n'avais même pas envisagée, puisqu'en fait ça ne faisait même pas partie du vocabulaire de ton éducation. Enfin, moi je compare ça, je savais même pas ce qu'était Sciences Po, tu vois, ou des choses comme ça. Tu vois, je suis arrivé en école de commerce, j'entendais Sciences Po, je ne savais pas ce que c'était, et du coup c'est marrant. En tout cas, ça résonne beaucoup, et moi j'ai envie de te demander quelle était la position de ta famille sur cette trajectoire, justement. Tu quittes quand même, du coup, un milieu social, ce qui peut faire peur à ta famille, à tes parents, et tu arrives dans un autre. Est-ce que tes parents t'ont encouragé? Est-ce qu'ils avaient peur? Comment ça s'est passé, ce rapport avec la famille?
Je dirais qu'ils m'ont laissé partir assez facilement. Je pense qu'ils auraient préféré, elles, puisque c'est beaucoup de femmes en fait, donc je pense que je vais me permettre de corriger, elles auraient préféré que je reste, donc ma mère, mes sœurs, mes tantes qui ont beaucoup été là, mais elles ne m'ont jamais empêchée. Donc je pense que, alors je ne sais pas si, peut-être qu'elles avaient aussi envie de s'émanciper et qu'elles n'avaient jamais eu l'idée ou l'opportunité et qu'elles étaient fières. En tout cas, elles le sont aujourd'hui, donc à l'époque, je ne sais pas, elles ne m'ont pas arrêtée, elles m'ont laissé partir, elles ont eu très peur, mais elles m'ont fait confiance, elles ne m'ont pas encouragée. J'ai vu une vraie progression sur le regard qu'elles ont eu sur moi, mon identité, ma personne et ce que je suis devenue sur les 13 ans et puis sur les 15 ans, les 15 dernières années. Donc je sens, et ça je pense que c'est un sujet que j'aime bien aborder aussi, j'en profite puisqu'on parle de la famille, je sais que ce que j'ai fait avec mon départ et ma propre émancipation, ça me concerne moi et je suis ravie, mais ça a eu un effet beaucoup plus large sur mes sœurs, sur ma cousine, sur des jeunes du quartier. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au-delà de juste ma personne, Anissa Bécouche, ma propre trajectoire. Ces trajectoires-là, elles ont du sens pour beaucoup plus de monde que notre propre personne, dans notre propre huis clos individuel, d'ambition presque. C'est vraiment un truc collectif déjà, quand ça nous arrive à nous. Il n'y a rien qui est tellement si individuel.
Et ça fait absolument écho avec l'ambition de cette émission qui est de passer les échelles. En fait, tu passais du moi au nous et du nous au tout. Et donc là, c'est transition parfaite de se rendre compte qu'à un moment, quand on transforme une trajectoire qui était prédestinée pour nous, et ça a des effets partout autour de soi parce qu'on fait des vagues. Et donc ensuite, ça rentre en écho. Parfois, des personnes qui sont ravies, d'autres qui peuvent être plus... En retrait ou en crispation parce qu'elle-même, ça peut les embarquer sur d'autres trajectoires. Mais je profite de cette porte ouverte que tu viens de faire pour passer une deuxième échelle, celle du passage de ton parcours vers des dynamiques plus collectives. Et il y en a trois aujourd'hui que tu portes conjointement. Et quand on a préparé cette émission, tu mettais bien le doigt sur le fait que c'était important de parler des trois en même temps, parce que pour ta trajectoire, déjà, ça fait absolument sens. Et aussi parce que ces différents... projets s'inscrivent à différentes temporalités sur les questions de pouvoir avoir accès à cette égalité des chances dont on parlera juste après, avec d'abord des questions liées au lycée professionnel pour pouvoir faire en sorte qu'un certain nombre de personnes qui ont des orientations choisies, enfin subies, pardon, lapsus, puissent passer du subi au choisi. Et donc là, au moment où ça se joue, et si c'est encore possible de pouvoir intervenir dessus. L'autre projet qui est 6 générations, où c'est pour les personnes où, pour le coup, il y a eu des chemins qui ont été tracés souvent pour elles et sans qu'elles l'aient toujours choisi, ces personnes-là. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à rattraper le coche et pouvoir avoir d'autres accès à d'autres moments dans sa vie? Et puis, à des échelles plus systémiques, ta participation au collège citoyen qui permet de discuter, d'échanger sur les enjeux de politique publique et vraiment d'encapacitation citoyenne dans le débat et la participation active dans dans la vie publique. Est-ce que tu veux commencer avec le premier d'entre eux et nous présenter un peu ce que tu fais avec le lycée professionnel ?
Oui, j'en ai parlé un petit peu au début de l'émission. Donc au lycée pro, ma mission qui fait partie de la réforme des lycées professionnels est toute nouvelle dans tous les établissements de France. Elle s'appelle le Bureau des entreprises. L'objectif politique du Bureau des entreprises, c'est 100% d'insertion, zéro décrocheur. Libre aux personnes qui ont été embauchées sur ces postes-là, de mettre en place, d'animer, de développer et de dynamiser cette ambition-là. Moi, c'est vrai que j'arrive avec mon background sociologique, avec ma propre trajectoire, avec mes propres convictions et politiques et sociales, de travailler beaucoup sur la question de l'orientation. Donc l'idée, c'est de faire de la relation école-entreprise et ça, c'est très important dans des lycées professionnels où on est en relation constante avec les entreprises. Mais moi, je travaille beaucoup aussi. Alors c'est un nouveau poste, ça vient d'arriver, il faut tout construire. J'ai pas encore tellement d'indices de combien ça marche, ce que je suis en train de mettre en place. Mais l'idée, c'est déjà de sensibiliser. Qu'est-ce que c'est une orientation choisie? Qu'est-ce que c'est une orientation subie? Avant même de parler de ça, demander aux jeunes... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Et c'est souvent là qu'on se rend compte que l'orientation, elle est subie parce que les jeunes ne savent pas expliquer pourquoi cette trajectoire, pourquoi ce lycée, pourquoi cette formation. Et puis, c'est d'ouvrir le champ des possibles en les faisant rencontrer des entreprises, des filières, des parcours d'avenir, des parcours d'exception. Parfois, moi, je dis tout le temps que je suis une exception à la règle, que la statistique, c'est pas celle-là, que mon bac plus 5, c'est je fais partie des 12% d'enfants d'ouvriers qui ont un bac plus 5, donc c'est pas énorme, donc je reste une exception à la règle, mais qu'il y a des manières de déjouer le déterminisme social, il y a des stratégies, il y a des choses à faire. Et donc voilà, mon travail au lycée pro, je sais pas si c'était très clair, mais c'est ça.
Et moi, je voulais rebondir sur la question du choisi et du subi. C'est quelque chose où, pour le coup, quand on n'est pas du tout dans ces... dans ces classes sociales, on va dire précaires, quand on fait un pas de côté dans la transition écologique, on peut avoir des enjeux qui peuvent être beaucoup plus méta, de se dire il va y avoir moins de ressources, le changement climatique va rendre les choses de plus en plus précaires et pressurisantes. Et pour le coup, là où on peut se positionner, c'est ce qui est choisi par rapport à ce qui est subi. Et je me souviens d'il y a quelques années d'avoir eu une conférence spéciale sur cette question-là et de nous inviter à choisir en fait cette vie-là de 10 pas de côté où la trajectoire est extrêmement différente parce que de toute façon, si on l'embrasse pas, on la subira. Et donc de prendre l'exemple par exemple des crises économiques comme ce qui s'était passé en Espagne il y a une dizaine d'années où ça a été absolument subi avec un taux de chômage qui a été considérable et donc c'est intéressant de voir que on peut avoir des trajectoires initialement assez différentes et pourtant il y a vraiment un point sur lequel qui est fondamental pour tout le monde, c'est de choisir ce destin-là et non pas d'en subir les conséquences.
Sur l'orientation, je me permets, choisi et subi, j'invite tout le monde à aller voir le travail exceptionnel que fait l'association Une Voix pour tous, en termes de plaidoyer, en termes de recherche et de data qui est publiée, qui est en train de prendre beaucoup de place sur le champ justement de cette conversation sur l'orientation subie et choisie précisément pour les lycéens professionnels. Puisque quand même, il faut rappeler qu'au lycée professionnel, la majorité des élèves orientés vers le lycée professionnel sont des élèves de familles défavorisées. Donc il y a quelque chose qui se joue en termes de société et de société de demain au lycée professionnel. On peut lire la société en s'intéressant un peu plus à qui est au lycée professionnel, pourquoi, comment et vers où on va après le lycée professionnel. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Dylan de Une Voix pour tous qui fait un travail exceptionnel sur cette question.
Et peut-être aussi un regard d'une autre classe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font HEC qui se disent mais en fait c'est bullshit et qui ensuite dans un deuxième temps décident de devenir pâtissier
et font un CAP en lycée pro.
Ouais voilà. Et parce qu'ils se disent mais c'est absurde.
On la nous révolte des premiers de la classe.
Ouais, je sais pas, c'est la révolte des premiers parce que parfois aussi c'est aussi la révolte de ceux qui avaient suivi le chemin quand ce chemin-là y menait. Mais par exemple, il y a eu le manifeste pour un réveil écologique avec beaucoup de personnes qui ont bifurqué aussi et qui finalement prennent goût à faire des choses avec leurs mains là où effectivement dans la pyramide sociale ça va être sur les métiers plus intellectuels, un bac plus 5 très intello qui va être considéré comme étant le Graal et où le fait de faire des choses manuelles et plus dit professionnelles sera jugé comme en dessous dans un certain ordre des choses qui à l'aune des enjeux actuels n'a pas vraiment lieu d'être. Donc il y a aussi une revalorisation qu'on doit toutes et tous avoir là-dessus sur en fait c'est palpable ce qu'on fait pour la société.
Mais je pense que merci en fait d'être revenu sur ça en parlant de ceux qui choisissent de revenir vers la voie professionnelle pour se former à un métier plus manuel. Alors il y a du tertiaire aussi au lycée pro, mais le lycée professionnel dans ce qu'il est, dans ce qu'il aurait dû être, c'est pas du tout une mauvaise idée pour la société. C'est un vrai outil qui pourrait mieux marcher, mais qui a été utilisé de la pire manière possible dans notre société. Comme une voie de garage, comme une voie... Aujourd'hui, j'étais dans un collège et des élèves de 5e m'ont dit « Moi, je veux pas du tout faire professionnel. Mes parents veulent pas. Moi, je veux pas. C'est quand on n'est pas bon à l'école. » Donc, il y a des choses quand même qui existent, des discours et des réputations sur le lycée professionnel qui font du mal. Mais en soi, la voie professionnelle, on doit la revaloriser. C'est une vraie voie d'avenir qui a besoin d'exister, qui peut exister, mais pas de la manière dont elle existe depuis les 40 dernières années. Le problème, il est là.
Et donc là, on a parlé vraiment de cet enjeu des moments où on peut choisir ou pas au moment où ça se joue. Et puis, il y a les personnes où ça s'est déjà joué il y a certaines années. Et donc ça, c'est le deuxième projet, ta deuxième casquette avec 6 générations. Déjà, le nom de l'association, je sais qu'il est important pour toi. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as choisi ?
6 générations, ça fait référence à une étude de l'OCDE qui date de 2018 et qui décrypte l'ascenseur social en panne donc dans les pays de l'OCDE et qui nous dit qu'il faut 6 générations à un enfant de famille pauvre en France pour sortir de la pauvreté. Donc 6 générations, c'est vraiment un projet qui s'adresse à des personnes qui sont aujourd'hui... Alors, C'est pour ça que j'ai tenu à parler du lycée pro et de 6 générations et du collège citoyen, parce que tout a du sens. C'est les enfants du lycée pro qui viennent de familles défavorisées, qui ont été orientés en majorité, qui vont être sur des boulots qui vont les rendre précaires. Donc, avec le lycée pro, je travaille sur l'orientation et pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on peut en faire. Avec 6 générations, je m'adresse à ces personnes qui ont sûrement, probablement, dans la majorité des cas, été orientées sur ces métiers-là et ou pas orientées du tout, mais qui sont sur des métiers aujourd'hui qui ne les payent pas assez pour pouvoir et se divertir et faire des choix en conscience pour leur propre trajectoire.
Paye pas assez et j'imagine aussi des enjeux de ce qui a été subi pour le coup.
Oui, absolument.
Voilà. Parce qu'on peut être payé 3 fois rien, et je pense que Claire et moi, au moins, on peut en parler, mais au moins, on a choisi des choses qui nous plaisent. Donc, il y a aussi là-dessus des choses qui... Enfin, une frontière qui est gigantesque.
Précisément. Et merci de le dire.
Je te laisse continuer sur... Oui. Donc, qu'est-ce que tu proposes pour ces personnes-là ?
Donc, 6 générations, c'est largement inspiré de mon propre parcours. L'idée, c'est que moi, ce qui m'a aidé à ouvrir le champ des possibles, j'utilise tout le temps cette phrase et je veux vraiment qu'on entende les mots « ouvrir le champ des possibles », quoi. S'imaginer quelque chose qui existe ailleurs de notre propre vision. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser, comme moi, ça m'a été donné, les loisirs et la culture comme un outil d'émancipation sociale. Alors d'abord, il y a une première sphère qui est une sphère peut-être de surface pour certains, mais qui est très importante pour moi, qui est la sphère du divertissement juste parce que j'ai envie. J'ai envie de sortir, je ne peux pas me le payer aujourd'hui, je ne peux pas y aller, j'y pense même pas. Donc voilà, pouvoir avoir une billetterie solidaire pour ces personnes-là. Et puis derrière, un enjeu plus sociologique, qui est l'enjeu de l'émancipation sociale par les loisirs et la culture. Et donc ça, c'est vraiment retracer mon propre chemin à moi. Donc rencontrer des personnes hors de son propre huis clos social, imaginer des nouvelles possibilités pour sa propre trajectoire, et puis changer les choses et se donner les moyens d'y aller.
Et alors, pour se donner les moyens, ça se joue à différentes échelles. Donc là, on a parlé des échelles individuelles, on a parlé d'une certaine échelle collective. Il y a des échelles qui se jouent absolument à des niveaux systémiques. Et c'est ton troisième engagement que tu mènes avec le Collège Citoyen. Avant d'expliquer l'engagement, est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est ? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse.
Oui, bah je recommande à tout le monde d'aller voir ce que c'est le Collège Citoyen de France. Donc moi, je fais partie de la 4e promotion du Collège Citoyen de France. Donc c'est relativement récent sur ce champ-là en France. Le Collège Citoyen de France, c'est un groupe d'amis et puis d'amis en 2020 qui se sont dit il se passe plein de choses sur notre territoire en France, partout. Plein de gens, plein de citoyens, de citoyennes engagées qui en fait devraient être les décideurs et les décideuses politiques de notre société. Pourquoi ces personnes-là n'y vont pas ? Pourquoi elles n'y ont pas accès ? Donc le Collège Citoyen traverse tout le territoire d'est en ouest, de nord au sud, pour aller chercher des citoyens engagés et les former à la politique publique, aux codes, aux outils, pour que demain on puisse se présenter sur des élections, pour que demain on puisse proposer des projets de politique publique et qu'on existe sur le champ de la représentation politique partout en France.
Et alors, comment est-ce que ça se met en place concrètement ?
Tu veux que je parle de la formation ?
Ouais, qu'est-ce que tu y apprends ? Comment ça se... Oui,
Alors, on a des conférences une fois par semaine pendant 6 mois. C'est assez intense. Il faut un vrai engagement. C'est tout à fait compatible avec une vie professionnelle qui nous laisse une soirée. Alors, c'est difficile de dire une vie professionnelle parce qu'on a toutes des vies professionnelles différentes, mais c'est un soir par semaine et quelques samedis matins avec des conférences sur des sujets complètement différents. Ça peut être bon, moi, un sujet qui m'obsède, les élections municipales arrivent, les différentes compétences des collectivités. Qu'est-ce que la région fait ? Qu'est-ce que la mairie fait ? Qu'est-ce que le département fait ? Quelles sont les compétences ? Les déchets, voilà, donc c'est très basique sur ça. Et puis ça peut être plus philosophique sur c'est quoi l'égalité des chances ? Ou bien c'est quoi un préfet ? Qu'est-ce qu'un préfet fait ? Qui est le sous-préfet ? À quoi ça nous sert ? Puis ça peut être sur une élection, comment on mène une campagne, puisque c'est bien beau de dire allez-y, présentez-vous. Mais on commence par où pour mener une campagne. Voilà, c'est des sujets, la constitutionnalisation aussi. Voilà, on balaye un peu tous les sujets qui paraissent essentiels pour pouvoir porter des projets sur le champ de la politique.
Puis surtout des sujets qui sont accessibles à toutes et tous, parce que là, quand on réécoute ce qu'on aborde depuis le début de l'émission, tu nous as présenté ton parcours. Tu nous as dit que tu pensais pas aux études au début, et puis finalement aujourd'hui tu nous parles d'enjeux de constitutionnalisation et de compétences du préfet du département par rapport à celui de la région. C'est bien la preuve que l'enjeu de la politique au sens noble, la police donc de la cité, ça appartient à tout le monde.
Absolument, et ça c'est vraiment le cœur du discours et du message du Collège citoyen de France. La politique, elle appartient à tout le monde. On est dans une démocratie qui est représentative. On doit pouvoir se présenter et représenter les enjeux qui nous paraissent les plus importants pour le peuple.
Et donc, pour parler de ces enjeux de société, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle juste après le moment de respiration musicale, où celles et ceux qui nous ont écoutés ont bien pu suivre avec toi, Nissa Bekouche, ce cheminement de un parcours personnel qui s'inscrit malgré tout dans un contexte social. Comment est-ce qu'il y a une émancipation, des liens collectifs qui se font avec d'autres, des projets qui naissent dans un but de pouvoir agir à son échelle pour transformer la société et qu'il y ait des trajectoires de toute personne qui se croisent à tout niveau et non pas qu'on reste coincé dans ces bulles quelles qu'elles soient. Je t'invite à ce que tu nous présentes la respiration musicale qu'on va écouter juste maintenant.
Alors, en toute honnêteté, la respiration musicale qu'on va écouter, je l'ai écoutée à la radio il y a quelques semaines. J'adore ce morceau, il faut écouter les paroles, peut-être il faut aller les lire, ça m'a fait beaucoup rire. Je vous laisse profiter.
Et ça s'appelle ?
Démission.
Démission pour Claire, il y a écrit. Clin d'œil. Merci Claire pour la régie. À tout à l'heure.
Il est interdit de salarier un homme.
J'adore ce morceau, il faut vraiment écouter.
Démission à la moustache du capitaine. Hé, patron, prends ça dans ta trompe. Scotché sur tes lunettes de champion mondial du dentifrice. Tous en même temps. Démission massive, démission collective, démission générale. On n'en veut plus de vos virements de radin, on n'en veut pas de votre putain de SMIC à la con. Racines ou crever sous la lune. Oh, ce qu'on fera, peu importe. Et surtout, on vous emmerde. Votre salaire de pièce jaune, votre bulletin d'abonnement à la misère, vous pouvez vous le rentrer dans le coccyx. Le brut, le net, tu peux t'en faire un paquet. Tu te l'emballes, tu te le roules en cône. Tu te le fumes avec ton comptable et tout le conseil de masturbation. On fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez les galériens, on prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça vous faire boule. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enclos. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve.
De retour sur Radio Galère, ici Mathieu, je suis ce soir avec Marin, on interview Anissa et on est aussi avec Claire en régie. Donc Radio Galère, l'émission de la forêt des possibles, tous les mercredis soirs de 19h à 20h. Et ce soir, on parle de la trajectoire des personnes des milieux défavorisés avec Anissa. Alors pour reprendre notre interview, moi je voulais te poser une question. On entend beaucoup les politiques dans les campagnes parler de méritocratie. Pardon. Mmh. Quand on veut, on peut, en gros. Avec quelques exemples sortis du lot, type Najat Vallaud-Belkacem ou quelques personnalités qu'on, voilà, qu'on met en lumière. Si elle l'a fait, c'est que tout le monde peut le faire. Est-ce que finalement la méritocratie, c'est pas un mythe ? Est-ce qu'il faut pas mieux être héritier que méritant en France ?
Bah c'est ce que les études disent. Ça n'existe pas. Et moi, je parle. On me dit souvent quand je raconte mon parcours, quel beau parcours, comme c'est génial. Et je sens tout de suite qu'on arrive sur le champ de ce discours-là de la méritocratie. Et je dis tout le temps, mais moi, je suis une exception à la règle. La règle, c'est pas ça. Donc la méritocratie, c'est oui, on va parler des transfuges de classe, de ces personnes qui ont réussi, mais elles restent des exceptions à la règle. La règle, c'est 6 générations. Quand on est dans une famille pauvre, on a très peu de chances de s'en sortir et de grimper l'échelle sociale pour pouvoir s'émanciper et socialement et économiquement. Culturellement, c'est un autre débat qui est un peu plus philosophique.
Moi, j'ai une question pour compléter ce que tu disais sur le côté 6 générations pour changer de classe. Si on prend 6 générations des nôtres, on est quand même sur
180 ans.
Voilà,
on est
c'est
en 1800.
Et donc, fatalement, le niveau de confort, le niveau de vie était moindre quand même. Alors, comment tu mettrais en parallèle ces niveaux de vie par rapport à la classe considérée au vu des générations ? Parce que moi, par exemple, même par rapport à mes grands-parents, je pense que j'ai une vie qui est plus confortable. Je ne sais pas si pour autant je suis une transfuge de classe parce que... Enfin non, je ne le suis pas. Mais voilà, est-ce que mon niveau de vie est meilleur comparé à mes grands-parents qui étaient agriculteurs ?
Alors, je ne sais pas si moi, je peux parler de ton niveau de vie à toi et de ce que tes grands-parents étaient. Ce que je peux dire, c'est que... Et c'est là où je pense que... Moi, je milite pour que la sociologie soit une matière obligatoire pour qu'on puisse comprendre qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Peut-être que tu en es une, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout ta condition, mais que notre niveau de vie a aussi beaucoup changé parce que notre société a changé. Donc oui, éventuellement, moi aujourd'hui, j'ai une machine à laver, j'ai un micro-ondes, mes grands-parents ne l'avaient pas. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai changé de classe. Alors, je ne sais pas si avec 6 générations, on est vraiment sur cette conversation de transfuge de classe, mais on est vraiment sur ce cycle générationnel, en tout cas de pauvreté et ou de précarité. Donc, j'ai peut-être un travail, mes parents n'en avaient pas, mais je suis dans la même précarité. Comme je disais tout à l'heure, si demain, je perds mon boulot, il se passe quelque chose de complètement hors de... Enfin, quelque chose que je n'ai pas prévu, je ne peux pas payer mon loyer.
Il y a deux choses qui me viennent en tête dans ce que venait de dire Claire, deux images. La première, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui dit que le smicard est le nabab du 21e siècle. En disant que même quand on est smicard aujourd'hui, en fait, on reste à vivre beaucoup plus confortablement que certaines personnes qui venaient dans le luxe dans des générations passées. Donc je pense que c'est aussi un des aspects sur lequel elle voulait avoir un regard. Et il y a un deuxième point qui m'est venu en tête en écoutant ça, c'est vraiment la constitution philosophique propre de la démocratie. Quand on lit Alexis de Tocqueville dans La démocratie en Amérique, globalement, il explique que les parts du gâteau ne sont pas égales, mais que de toute façon, le gâteau est voué à grossir. Et donc, que ce qui compte, ça va être le partage d'un gâteau grossissant. Même si les parts ne sont pas les mêmes, quoi. Et de dire, c'est pas grave, en fait, que ta part soit substantiellement pas plus égale que celle de ton voisin, parce que, de toute façon, ta part va grossir, puisque de toute façon, il va avoir le niveau de vie qui va aller avec. Et ça pose une question déjà d'un point de vue éthique, Et puis ça pose des questions aujourd'hui avec le fait que dans un monde qui se contraint en matière d'accès à la ressource, toute cette philosophie même de cet accès à l'égalité de possibilités, de chances, va être complètement remis en question par le fait qu'on ne va pas pouvoir continuer à avoir un gâteau grossissant de façon permanente. Et donc...
Juste, si je peux m'arrêter sur le gâteau grossissant, pourquoi pas, on pourrait parler de gâteau grossissant, mais on pourrait juste revenir à l'idée simple de parts égales. On ne veut pas tellement qu'il grossisse le gâteau, mais il est bien là le problème des 6 générations, c'est qu'au plus le gâteau grossit, au moins certaines personnes de la population n'ont pas accès aux parts du gâteau, donc on n'aura jamais des parts égales. Donc on ne veut pas tellement qu'il grossisse, mais on veut qu'il devienne de plus en plus égal. Moi, je suis vraiment sur cette question du choix aussi et de l'opportunité. Est-ce que je sais? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je peux?
Être à sa juste place.
Être à sa juste place, comment moi j'ai envie, est-ce que je peux décider de ma propre trajectoire? Mais alors, on n'a pas beaucoup parlé des enjeux derrière, mais tout ça, ce sont quand même des enjeux de cohésion sociale. On a une majorité aujourd'hui de Français et de Françaises. D'ailleurs, si on regarde les stats de l'IFOP, de salariés qui votent pour Marine Le Pen. Donc on a aussi un enjeu de société. C'est quoi notre image de la société? C'est quoi notre image du vivre ensemble? Est-ce que la question des salaires précaires et du travail qui ne paye pas, elle est vouée à rester une question qui appartient à l'extrême droite? Est-ce qu'on ne peut pas aussi récupérer ces questions-là et pouvoir les poser de manière tout à fait philosophique, consciente, politique et proposer des solutions?
Alors comment est-ce qu'on l'a fait rebifurquer vers des partis qui ont des approches plus humanistes?
J'aimerais bien avoir la réponse à ta question, mais moi j'y vais avec mon petit projet. Je veux redonner du goût, je veux redonner du pouvoir et je veux redonner de la légitimité, de la reconnaissance à des gens qui travaillent. Donc leur donner accès aux loisirs, à la culture, pouvoir se dire j'ai accès à, si je veux aller à un concert demain, je peux. Je n'ai pas besoin de compter mon argent. Si je veux aller au théâtre demain, je peux. Si je veux aller, faire un cours de poterie, je peux. D'ailleurs, quand j'ai mené l'étude de marché pour 6 générations, ce qui était vachement intéressant et ce qui revient beaucoup dans les études de l'IFOP encore sur le pessimisme des Français, c'est que quand il y avait la question qui les concernait à eux sur est-ce que tu vas au théâtre, à l'opéra, pas tellement les adultes me disent moi j'ai pas tellement envie d'y aller, mais j'ai des enfants et pour mes enfants, donc ils comprenaient le cycle générationnel de la pauvreté et de l'égalité des chances, et pour leurs enfants, ils feraient l'effort d'aller vers ces choses-là pour ouvrir le champ des possibles. Et c'est la même chose quand on pose les questions sur le pessimisme aux Français et aux Françaises aujourd'hui, ils sont pas tellement pessimistes quand ils pensent à eux. Dès qu'ils pensent à leurs enfants et qu'on inclut les enfants dans la question, ils sont pessimistes de plus en plus et chaque année, à chaque fois, de pire en pire.
Tu parlais d'égalité des chances. C'est un terme qu'on a employé plusieurs fois depuis le début de cette émission. C'est un terme qui revient très très souvent dans le débat public, qui a, je me positionne moi, une bonne intention, mais des effets qui peuvent être assez pervers. J'aimerais avoir ton regard sur déjà ce que c'est pour toi et le regard que tu portes dessus.
Comme je te disais avant l'émission, on a eu un cours au Collège Citoyen de France avec une personne qui a tenté de débunker et de dire que l'égalité des chances, finalement, c'était pas une bonne idée, ça ne marchait pas. Et j'avoue que depuis, je réfléchis à ce qu'il a dit, à où je me positionne sur l'égalité des chances, parce que pour moi, comme je te disais tout à l'heure, si on déshabille le terme égalité des chances de toutes les connotations politiques, on a un mot qui est égalité et puis chance. Donc c'est juste avoir accès à des choses autant que n'importe qui d'autre. Donc à partir de ça, ce terme-là, moi, il me parle beaucoup. Après, c'est vrai que politiquement, il a une connotation, il a été utilisé de façon, je ne sais pas, on pourrait en discuter, mais moi, je le déshabille complètement de sa connotation politique et c'est juste pouvoir équitablement avoir l'accès à la même chose que n'importe qui.
Tout à l'heure, on parlait de Londres. Moi, j'ai été à Londres professeur de débat pour des personnes qui venaient d'écoles défavorisées quand j'étais là-bas. Et c'est une société libérale qui, pour le coup, donne vraiment une capacité de savoir se saisir d'un destin proposé à un moment Alors après, il y a des énormes inégalités sociales, mais malgré tout, il y a des processus d'inégalité des chances et d'accès à l'égalité des chances, notamment ce programme qui s'appelle DebateMate, qui est quand même assez connu dans le territoire. Malgré tout, on critique beaucoup la trajectoire générale prise par l'Angleterre sur le fait que c'est une société qui est très libérale et que certaines personnes se sont saisies des chances qui leur sont proposées et puis d'autres n'y arrivent pas. Ou d'autres s'en saisissent, mais en fait, malgré tout, la chance n'est pas accomplie. Il y a quelque chose qui passe... Il y a un champ des possibles qui est ouvert, mais une concrétisation qui peut ne pas se faire. Quel est ton regard par rapport à la France, où c'est peut-être un peu plus sclérosé, mais où le filet de sécurité, en comparaison de l'Angleterre, est quand même plus important ?
Oui, mais l'accès est plus difficile. Par exemple, l'étude de l'OCDE qui décrypte l'ascenseur social en panne. En Angleterre, il ne faut pas 6 générations, mais 4. Pour sortir de la pauvreté. Donc, il y a quand même quelque chose qui font mieux que la France. Je ne sais pas quoi. Moi, j'ai un peu du mal depuis que je suis rentrée. Je tente de prendre un peu de recul avec ce que je pense de la société anglaise parce que j'ai tendance à comparer constamment, mais finalement, ça reste anecdotique. Donc, j'ai besoin de l'étude de l'OCDE. J'ai besoin de continuer à lire, à me documenter pour savoir vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, j'étais dans l'éducation. J'étais dans des collèges de quartier prioritaire. Ce que je voyais, c'était que... les entreprises, par exemple, jouaient beaucoup plus le jeu. Mais est-ce que j'ai envie de faire la pub de ce système-là où des écoles sont complètement libéralisées et marchent selon combien d'argent a été donné par des entreprises privées à des conseils d'administration ? Donc, il y a plein de questions qui se chevauchent. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire la comparaison tout à fait transparente et juste entre la France et l'Angleterre. Donc, je vous donne juste le chiffre. C'est 4 générations en Angleterre, c'est 6 en France. Donc, il y a forcément quelque chose qui marche bien. Et je ne peux pas finir en parlant de l'Angleterre sans mentionner Ken Loach, qui a quand même beaucoup décrypté la société anglaise et la société anglaise qui ne marche pas, justement.
Bah, merci beaucoup, Anissa. Je faisais un petit... je pointais le livre que tu étais en train de lire, Mathieu. Peut-être, Mathieu, tu veux nous dire quel est le titre du livre. Et tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu nous disais que c'était quelque chose qui t'inspirait en ce moment. Donc, si on peut finir cette émission avec quelques lectures. Là, il y a eu beaucoup d'études de l'OCDE et des penseurs qui ont été donnés par Anissa. Mais ce livre avait l'air de t'inspirer, Mathieu.
Oui, tout à fait. Bah, moi, c'est vrai que je me documente beaucoup sur la chose parce que c'est quelque chose qui me prend aux tripes aussi. C'est un de mes combats. Donc, le livre s'appelle « Et tes parents, ils font quoi ? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents » de Adrien Nazelli, qui donc est journaliste à Radio France et qui a interviewé des enfants du coup devenus transfuges de classe et leurs parents. Donc on a aussi le point de vue des parents. Dedans, on a par exemple Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture, dont le père était mineur, ou David Belliard. Voilà. Et c'est des histoires. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir... d'avoir ce témoignage des parents, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, de est-ce que je vais encore arriver à comprendre mon enfant, est-ce qu'il va me parler avec un vocabulaire différent, est-ce qu'il va se plus du tout nous parler. Donc voilà, ce livre, je suis en train de le lire. Et puis il y en a un deuxième que je voulais vous recommander, c'est La révolte des premiers de la classe. Du coup, tout à l'heure on en parlait, c'est donc de Jean-Laurent Casselli, et c'est plutôt ces surdiplômés ou ces personnes très diplômées qui font le chemin inverse et du coup qui se retrouvent pas forcément dans ces valeurs et qui veulent apprendre quelque chose de leur main, quoi. Voilà, donc c'est les deux petites lectures que je vous recommanderais.
Bien sûr. Ouais.
Moi, je recommanderais le livre de Nasrin Slaoui, Illégitime, qui parle précisément de ces questions-là. Transfuge de classe, je crois que Nesrine, elle n'aime pas beaucoup qu'on dise, donc je ne vais pas le dire pour elle, mais sur ces questions d'origine sociale, de trajectoire et de où on se positionne, comment on se positionne et qu'est-ce que ça fait. C'est une étude mi-sociologique, mi-autobiographique, une étude, un bouquin. Et c'est vachement bien.
La question d'être transfuge de classe, c'est-à-dire en fait sortir du conditionnement que sa classe propose et projette sur nous, ça peut être pour n'importe quel type de classe. Et il y a toujours cette espèce de sentiment qui est un petit peu désagréable, le fait de pas vraiment appartenir à l'un, pas vraiment appartenir à l'autre. Moi aussi, je vais donner une lecture, j'en profite. Il y a un livre qui s'appelle « Être à sa place » d'une philosophe qui s'appelle Claire Marin. Bon, c'est un petit clin d'œil pour oui. deux personnes de cette émission, mais qui parle de cette question-là et qui dit qu'en fait, on n'est jamais tout à fait arrivé. Parfois, on peut garder les codes de sa première classe, quand bien même on n'en ait pas du tout les moyens ou on les a dépassés, etc. Et donc, cet aspect un petit peu inconfortable. Et j'aimerais te demander, comme toute dernière question, avec finalement ce regard qui est assez holistique, puisqu'il te permet de regarder de travers beaucoup d'aspects, quand je dis de travers, c'est en biais, beaucoup de classes sociales. En 2030, la ville de Marseille, comment tu souhaiterais la vivre pour toi et pour ceux qui te sont chers?
C'est loin, 2030. Instinctivement, j'ai envie de parler des transports, qui est mon obsession en ce moment à Marseille, et qui prive beaucoup de personnes de vivre à Marseille. Marseille, il y a quand même un nord et un sud qui, historiquement, est très intéressant de s'y pencher, en fait, aussi, parce que ça représente aussi beaucoup une question de classe, encore ici, dans la géographie de Marseille. Donc, je crois que j'imagine un Marseille accessible par tous et toutes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans être dans les quartiers nord et ou dans les quartiers sud, où tout le temps, quand on dit ça à Marseille, on sait très bien presque de quelle classe tu viens et on te donne une étiquette qui est presque juste, finalement. J'habite les quartiers nord, j'habite les quartiers sud, donc une ville plus mixte dans sa géographie et ses habitants, habitantes.
C'est donc un appel qui est fait à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui travaillent à la métropole et à la ville de Marseille.
Surtout à la métropole, la compétence est la métropole.
La compétence se trouve surtout à la métropole à ce niveau-là, et de se dire que finalement, c'est aussi se donner des moyens techniques pour qu'ensuite, on puisse humainement se saisir de ces chances-là et choisir la vie et la trajectoire qu'on veut avoir. Est-ce que tu as une dernière phrase de conclusion avant que nous rendions l'antenne ?
Je crois qu'on ne peut pas finir, je n'ai pas une dernière phrase, mais on a beaucoup parlé de livres et de recommandations et de transfuges de classe. On ne peut pas finir sans faire un clin d'œil à Annie Ernaux, qui a quand même écrit La Place et qui a été une des premières personnes en France, en tout cas, dans ce format-là, à écrire sur les difficultés à se positionner sur toutes ces questions de transfuges de classe.
Eh bien, merci beaucoup, Anissa Begouf.
Très beau ce mot de la fin.
Ouais, pour une émission très dense, très complète et qui aura illustré à merveille ce passage qu'on essaie de proposer semaine après semaine du moi vers le nous et du nous vers le tout, et donc comment est-ce que avec nos trajectoires singulières on crée des dynamiques collectives qui sont en mesure de pouvoir transformer la société. On rend l'antenne. Merci beaucoup à Claire qui était en régie et qui a rendu cette émission
Claire.
Possible.
Merci beaucoup Claire.
Merci à vous pour ces échanges.
Merci Mathieu pour cette première en direct.
Un grand plaisir.
Et merci à Anissa Begouche pour ses forts témoignages.
Et merci à vous pour l'invitation et l'opportunité de parler. Merci.
Bonne soirée et à la semaine prochaine. I got a brand new style.